Le texte de prédication ce dimanche est tiré dans l'évangile de Jean, chapitre 1. Le thème est « Le secret éternel des rachetés ». Et le prédicateur est le révérend Roger Nzana. La lecture sera faite par la diaconesse Evelyne.
Évangile de Jean, chapitre 1, verset 29. Il est écrit « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Amen.
Amen. Merci diaconesse Flore. Nous allons écouter.
Alléluia. Qui pourra? Personne le peut, personne le fera. Qui résistera à mon roi? Personne le peut, personne le fera. Oh, oh, oh. Oh, 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 la puissance dans le nom de Jésus, la puissance dans le nom de Yahweh. Oh, 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 il y a victoire dans le nom de Jésus, il y a victoire dans le sang de Yahweh. Alléluia. Qui résistera à notre Dieu? Personne ne le peut. Parce qu'il y a la victoire dans le sang de Jésus. Alléluia. Nous avons parlé des paroles de Jésus. Mais en ce matin, je voudrais que nous parlions de la personne de Jésus. Qui est Jésus? Est-ce qu'il est simplement un marabout? Qui est-il? Bien-aimé, la Bible dit que les choses cachées sont à l'Éternel et les choses révélées sont à nous, ses enfants. Le secret éternel des rachetés. Un secret est une chose parfois qui est cachée, qu'on ne connaît pas. Mais pour nous, enfants de Dieu, le Seigneur nous accorde la grâce d'avoir la totalité de ce qu'il voudrait réaliser. Et nous avons la grâce d'avoir dans la Bible ce livre d'Apocalypse qui nous montre la fin de toutes choses avant que nous soyons dans la fin. Quel est le secret éternel des rachetés? Avant de parler des rachetés, nous allons parler du secret éternel des non-rachetés. Ils ont aussi un secret, les non-rachetés. Et le texte que nous avons lu nous dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le péché du monde et ses conséquences. Bien-aimé, qu'est-ce que c'est le péché du monde? La Bible nous dit dans le livre de Genèse, le chapitre 6, le verset 11 et 12, ceci. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre. Et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Bien-aimé, toute chair dans ce texte avait corrompu sa voie. Et quand Dieu regarde la terre, il ne voit que là la corruption. Quand on parle de corruption, parfois nous pouvons penser qu'on dit que le Cameroun est corrompu. Non, ce n'est pas de cette corruption-là dont il est question ici. C'est la corruption de notre âme, de notre esprit et de notre entendement qui fait en sorte que nous commençons à poser des actes qui sont contraires à la volonté de Dieu. Bien-aimés, la corruption est le péché du monde. Quand la pensée est corrompue, quand le cœur est corrompu, quand l'âme est corrompue, tout ce qu'on ne peut produire ne peut être que péché. Pour mieux comprendre un peu ce que c'est que la corruption, nous prenons l'exemple d'une mangue, d'une bonne mangue, qui dans son état premier est ravissante, elle est appétissante. Quand on la voit, on voudrait la sucer, cette mangue, dans son état premier. Mais quand nous repassons à côté de cette mangue, nous nous rendons compte qu'elle est déjà, tachetée, et il y a des choses qui ne sont pas agréables à dire, qui sont à l'intérieur. Cette mangue est totalement déjà détruite, infectée. Il n'y a plus d'avenir pour elle. Elle n'est plus agréable. Son état a changé, sa nature a changé. Elle est gâtée, comme on dit dans le jargon. Elle est gâtée. La mangue est gâtée. Quand quelque chose est déjà gâté et qu'il n'y a plus rien à faire pour cette chose, elle est totalement corrompue. Bien-aimé, le péché du monde, c'est également le refus d'accepter la grâce de Dieu dans la personne de Jésus. Celui qui ne croit pas est déjà jugé et condamné. Le refus d'accepter la grâce de Dieu manifestée dans la personne de Jésus, en quelque sorte, le rejet de l'autorité du Seigneur, comme Satan l'a fait. Bien aimé, ce péché du monde a des conséquences énormes, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit dans l'éternité. Sur le plan physique, quand nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean, Jean chapitre 8, Jean chapitre 8, le verset 34, il est dit ceci: en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Bien-aimés, nous sommes esclaves du péché si on se livre à celui-ci. Un esclave n'est pas libre de ses mouvements, il n'est pas libre de ce qu'il voudrait accomplir. Il est sous la domination de quelque chose, et ici on dit quiconque se livre au péché devient l'esclave du péché. Combien de personnes n'arrivent pas à marcher dans la sanctification? Combien de personnes luttent avec le péché et ils n'arrivent pas à le vaincre, simplement parce qu'ils sont devenus esclaves. Sur le plan spirituel, dans le livre de 1 Jean, le chapitre 3, le verset 8, il est dit ceci: celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Celui qui pêche devient la propriété de Satan. Il devient la propriété des démons et ils peuvent agir dans sa vie à leur guise, faire de lui ce qu'ils veulent. Ça ne dépend pas que tu aies l'argent, que tu sois riche ou que tu sois pauvre. Si tu te livres au péché, si tu pèches, tu appartiens au diable. Et quand nous nous rappelons de Jésus, quand il parle de chasser les démons, il parle de sept esprits plus méchants, sept fois sept, et on ne peut continuer à avancer. On est sous la domination totale de Satan et des démons à cause du péché. Le péché donne accès au diable, donne accès au diable dans notre vie. Et il fait de nous ce qu'il veut. Ça, c'est sur le plan spirituel. Je ne peux rien faire, mes pensées, etc. Maintenant, sur le plan éternel, Apocalypse, chapitre 21, le verset 8 nous dit ceci. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc sur le plan physique, nous sommes esclaves. Sur le plan spirituel, Satan se saisit de nous, ses démons nous embrigadent et font de nous ce qu'ils le veulent. Et sur le plan éternel, c'est-à-dire ce qui est caché pour ceux qui vivent dans le péché, ce qui est caché pour ceux qui pratiquent le péché, ce qu'ils ne savent pas, mais que nous connaissons en ce jour, c'est que leur part est dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ah. Peut-être que c'est caché pour ceux qui ne lisent pas la parole de Dieu, mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous le connaissons déjà. Le secret éternel des non-rachetés, c'est la mort éternelle. C'est le tourment éternel. C'est une vie privée de la gloire de Dieu. C'est une vie totalement perdue. Apocalypse, chapitre 22, verset 13, va nous dire ceci. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Verset 15. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Ils sont chassés de la présence de Dieu. Bien-aimé, je crois que tu es enfant de Dieu en ce matin. Et que tu es racheté. Je voudrais que nous jetons notre regard envers ceux qui sont dans nos familles, nos amis, nos voisins, nos collègues de service. Savons la fin qui leur est réservée s'ils ne sont pas rachetés par le Seigneur. Et si nous-mêmes également, nous savons que nous ne sommes pas encore rachetés par le Seigneur. Nous savons également la fin qui nous est réservée. Bien-aimés, oui, il y a un secret éternel pour les non-rachetés. Et le Seigneur l'a dit, dehors, 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 vous n'avez point part en ma présence. Bien-aimés, le monde, notre famille, ceux qui nous entourent, Ils ont besoin de nos prières. Ils ont besoin que nous combattons pour leur salut. Ils ont besoin que nous manifestions de la compassion à leur endroit. Que nous travaillons afin qu'ils n'entrent pas dans ce secret éternel des noms rachetés. Prions pour nos familles. Combattons pour elles. Prions pour notre relation personnelle avec le Seigneur, pour notre vie. Combattons pour notre salut et nous ne serons pas comptés de ce nombre-là. Le monde a besoin du salut. Le monde a besoin de la grâce. Et quand Dieu a vu le monde, notre texte de ce matin nous le dit, il va dire, voici l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Peut-être que parfois nous ne comprenons pas bien ce que c'est que ôter le péché du monde. Dans l'Ancien Testament, il fallait offrir une victime expiatoire pour couvrir le péché. Pour couvrir. Mais ici, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ne couvre pas seulement, mais il enlève ce péché-là. Il l'enlève. Il a la capacité, la puissance pour enlever le péché. Qui est-il? Nous disons généralement de Jésus qu'il est Dieu, qu'il est sauveur, qu'il est la lumière du monde, etc. Mais quand Jean va le présenter dans ce texte, parce que pratiquement tout le chapitre 1 du livre de Jean nous permet de connaître qui est Jésus. Et il commence en disant, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Oui, Jésus est Dieu, c'est vrai. Mais dans sa forme humaine et dans sa mission terrestre, Jean nous le présente comme étant l'agneau de Dieu. En quelque sorte, celui que Dieu va prendre pour offrir à l'humanité, pour que l'humanité soit sauvée du péché. Il a une mission, Jean, chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Alléluia. C'est la mission de Jésus. Ôter le péché du monde, donner la vie. C'est ce que nous voyons. Nous allons continuer avec cette mission. Comment est-ce qu'elle se manifeste concrètement dans le livre d'Apocalypse? Mais comment est-ce qu'elle se manifeste? Galates, chapitre 3, le verset 13. Galates, chapitre 3, le verset 13. Il est écrit ceci là. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Comment est-ce que cette mission de Jésus se manifeste? Elle se manifeste sur la croix. Sur la croix, ici on dit qu'il paie pour notre malédiction. Sur la croix, il y a substitution, il y a échange. Nous qui étions maudits, nous qui n'avions pas nous qui ne pouvions pas jouir de la grâce de Dieu, nous qui étions rejetés, il prend notre place et il devient malédiction pour chacun de nous. Alléluia. Bien-aimés, les hommes méprisent la prédication de la croix. Les hommes méprisent parfois quand on parle du sang de Jésus qui est puissant. Les hommes ont l'impression qu'il faut faire d'autres choses pour que la malédiction soit ôtée. Je ne sais comment et comment. Certains vont même jusqu'à peut-être, oh, tuer le coq. Mais j'ai pu te rassurer que quand tu vas tuer le coq dans ton village, etc., quand tu seras dans le ciel, tu pourras peut-être dire, oh coq, je te bénis parce que tu m'as délivré de la malédiction. Ça sera peut-être possible dans le ciel. Même les rites que nous sommes en train de faire un peu partout, nous serons en train de dire, oh rite, je te bénis parce que tu m'as délivré du feu de la géhenne. Est-ce que ce sera possible? On fait beaucoup de choses qui, au fond, ne sont pas la solution à notre problème. La solution, c'est la croix. Et l'apôtre Paul va le dire dans le livre de Corinthiens, chapitre 1. Et là, il commence à dévoiler le secret éternel des rachetés. Alléluia! La première des choses qui les caractérise, c'est là, c'est la croix. Alléluia! C'est la croix, c'est un secret. La croix est un secret, le secret des rachetés. Ils parlent de la croix de Jésus parce qu'ils savent que par la croix de Jésus, il y a beaucoup de choses. Et Paul va consacrer son ministère là. 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 22 à 24. Il est dit ceci. Les Juifs demandent les miracles. Les Grecs cherchent là la sagesse. C'est ça, le miracle, la sagesse. On n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de miracle, on n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de sagesse. Mais c'est sur ce sur quoi ils focalisent leur regard, c'est ce qu'ils recherchent le plus, le miracle et la sagesse. Et l'apôtre Paul va continuer en disant, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Alléluia. Les gens disent, le miracle. Je te dis la sagesse et l'apôtre Paul le dit, moi je vous parle de la croix parce que sur la croix, la puissance de Dieu se manifeste. Alléluia. Parfois on croit que sur la croix il n'y a pas de miracle. On croit que sur la croix il n'y a pas de sagesse. Mais l'apôtre Paul continue en disant, c'est une sagesse de Dieu, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Bien-aimé, sur la croix, la mort éternelle est vaincue. Alléluia. Sur la croix, Satan est vaincu. Alléluia. Sur la croix, toutes malédictions sont ôtées. Alléluia. Sur la croix, l'emprise de Satan et des démons dans notre vie est détruite dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Sur la croix, mon âme est rachetée. Sur la croix, je suis restauré. Sur la croix, Dieu commence à manifester sa grâce dans chaque aspect de ma vie, dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps. Il commence à agir. Sur la croix, il y a la totalité du miracle, il y a la totalité de la sagesse, il y a la totalité de la puissance. Alléluia. C'est ce qu'il y a sur la croix. Alléluia. Parfois, elle est méprisée. Parfois, ce message est méprisé, mais il est le secret éternel des rachetés. Alléluia. Et maintenant, comme nous avons la grâce de voir la fin avant la fin, nous allons dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 5, le verset 9. Il est dit ceci. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. » L'agneau est comment? Il est digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Pourquoi? Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Alléluia. Ici, c'est la fin. Et dans cette fin, on nous montre ce qui est plus important pour l'homme. Ici, c'est le sang de l'agneau qui nous a, qui nous rachète. Alléluia. Pendant que les rachetés seront dans les cieux, pendant qu'ils seront là dans la présence du Père, et qu'ils seront en train de voir comment des gens sont en train de crier dans l'enfer, comment ils sont troublés dans l'enfer, ils vont exprimer leur reconnaissance et leur gratitude à l'endroit du sang de l'agneau qui les a sauvés de cet enfer. Alléluia. Et ils seront en train de dire, « Oh agneau de Dieu, si tu ne m'avais sauvé par ton sang, si tu ne m'avais racheté par ton sang, si tu ne m'avais délivré par ton sang, je serais aussi de ceux qui vont dans l'enfer. Mais puisque tu m'as sauvé par ton sang, puisque tu m'as délivré par ton sang, je te rends grâce parce que ton sang a effacé l'acte dont les origines me condamnaient. Ton sang a ôté mon péché. Ton sang m'a donné accès dans ton royaume. Alléluia. » C'est la louange qui va monter du cœur des rachetés. Pas la louange à cause de beaucoup de choses, mais la louange de ce que le sang de l'agneau les aura rachetés. C'est la fin de l'histoire ici-là. Bien-aimé, quand tu seras au ciel, tu vas dire là-bas, au sang de l'agneau, non, il y a telle autre chose qui m'a racheté. Et on va te dire, ça n'a pas de prix ici-là. Ça n'a pas de valeur ici. Mais quand tu seras en train de chanter ce cantique nouveau, « Oh, je t'adore, sang de l'agneau. Oh, je t'adore, agneau de Dieu, parce que tu as payé l'acte dont les origines me condamnaient. Je t'adore, agneau de Dieu, parce que tu l'as fait, tu m'as délivré de l'enfer. Je t'adore, agneau de Dieu, parce que tu m'as délivré de la mort. Je t'adore, agneau de Dieu, parce que tu m'as donné la vie. » Ta louange va davantage monter, parce que c'est ça la fin. Alléluia. C'est comme ça que nous allons adorer le Seigneur dans les cieux à cause du sang de l'agneau. Apocalypse chapitre 7, versets 9 à 17. Il est écrit, « Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans la main. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et les quatre des vieillards et les quatre êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Alléluia! Parce qu'ils ont lavé leur robe, parce qu'ils ont sanctifié leur vie dans le sang de l'agneau, ils pourront se tenir là, devant le trône de l'agneau. Le verset 15 Il dit, c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Alléluia! Bien-aimés, quand on ne comprend peut-être pas le sens du sang de l'agneau, le voici qui est caché ici, là. Dieu nous le révèle en ce matin. C'est là qu'est cachée la vie. C'est là qu'est cachée la victoire. C'est là que découle la véritable adoration. Parce que c'est là que nous sommes rachetés. Apocalypse chapitre 22, le verset 13 à 14. Il est dit ici, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte dans la ville. Alléluia. Bien-aimés, ceux qui lavent leur robe, ici on dit qu'ils sont heureux parce qu'ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Quel privilège et quelle grâce. Quand le Seigneur nous présente la nature de Jésus, l'identité de Jésus ici en ce matin, et qu'il nous dit que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il est en train de nous dire que par ce sacrifice de Jésus sur la croix, tout est accompli tant sur cette terre que jusque dans l'éternité. Alléluia! Par le sacrifice de Jésus sur la croix, nous avons accès dans le royaume, dans la présence, dans le repos éternel du Seigneur. Alléluia! Quel privilège et quelle grâce! Bien-aimés, comment être racheté? Le secret est là dans ces versets que nous avons lus. Laver nos robes, laver notre vie, sanctifier notre âme dans le sang de l'agneau. Alléluia! Nous allons lire ensemble Apocalypse, le chapitre 22, du verset 10 au verset 15. Apocalypse, chapitre 22, du verset 10 au verset 15. Il est écrit, il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Alléluia. C'est la fin. Bien-aimé, le Seigneur voudrait que le péché du monde ou notre péché, qu'il soit ôté. C'est sa volonté, c'est son désir. Le Seigneur voudrait que nous échappions à cette mort éternelle qui est décrite dans ce livre. Et pour cela, le moyen qu'il a donné, oh, c'est l'agneau de Dieu, parce que celui-ci ôte le péché du monde. Bien-aimé, il y a la puissance dans le sang de l'agneau. Alléluia. Il y a la puissance dans le nom de Jésus.
Est-ce que nous croyons? Est-ce que nous avons foi que si nous confessons nos péchés, Christ est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité? Est-ce que nous croyons que si nous nous disposons au Seigneur, il est puissant pour nous délivrer de toute malédiction, de tout lien, de tout ce qui nous empêche d'avoir la vie? Est-ce que nous croyons que la vie éternelle découle de la croix et du sang de l'agneau? Alléluia! Est-ce que nous le croyons en ce matin? Peut-être que nous l'ignorions autrefois, mais en ce matin, je voudrais que nous le sachions. C'est le secret éternel de tous ceux qui sont rachetés. Alléluia! Le sang de l'agneau, la croix. Alléluia!
La puissance est dans le sang de Jésus. Alléluia! La puissance de... Est-ce qu'on peut se lever? La puissance, c'est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance, c'est dans le sang de Jésus, la guérison. La guérison est dans le sang de Jésus. Alléluia. La guérison est dans le sang de Jésus. Il est mon sauveur, ton sauveur. La guérison est dans le sang de Jésus. La guérison est dans le sang de Jésus. Ma vie est dans le sang de Jésus. Alléluia. Ma vie est dans le sang de Jésus. Alléluia. Ma vie est dans le sang. Dans le sang de Jésus, ma vie est dans le sang de Jésus. La puissance, c'est dans le sang de Jésus. Alléluia. La puissance, c'est dans le sang de Jésus. Alléluia. La puissance, c'est dans le sang de Jésus. La puissance, c'est dans le sang de Jésus.
Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur pour le sang de l'agneau? Est-ce que nous pouvons le bénir pour la puissance qu'il y a dans le sang de l'agneau? Est-ce que nous pouvons le bénir pour la délivrance qu'il y a dans le sang de l'agneau? Est-ce que nous pouvons le bénir pour la vie qu'il y a dans le sang de l'agneau? Bénissons le Seigneur. Ô Père, nous te bénissons. Ô pour l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous te bénissons, Père, pour la vie qui découle de la croix. Nous te bénissons, Père, pour la grâce qui coule de la croix. Nous te bénissons, Père, pour la victoire qui coule de la croix. Nous te bénissons, Père, pour la rédemption qui coule de la croix. Nous te bénissons, Père, pour tout ce que tu as accompli sur la croix. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce moyen, pour la vie dans le sang de l'agneau. Nous te bénissons, Père, pour la vie dans le sang de l'agneau. Nous croyons, Seigneur, qu'il y a la puissance dans le sang de l'agneau. La puissance pour renverser les œuvres des ténèbres. La puissance pour détrôner l'ennemi. La puissance pour ôter la malédiction. Père, nous te bénissons, Seigneur. Oh, nous te bénissons. Nous te bénissons, Père. Parce qu'il y a la puissance. Oh, dans ton sang. Nous te bénissons, Seigneur. Oh, alléluia. Est-ce que nous pouvons continuer à proclamer que le sang de Jésus brise toute malédiction? Oh, brise toute chaîne. Brise toute emprise de l'ennemi dans nos vies, dans la vie de nos familles. Oh, prions le Seigneur. Oh, Père, nous crions à toi, Père. Oh, le sang de l'agneau dans nos familles, le sang de l'agneau dans nos vies, le sang de l'agneau dans nos activités, le sang de l'agneau dans ce que nous sommes. Oh Père, manifeste ta grâce et que ton nom en soit béni. Oh, dans le nom de Jésus. Oh, alors que nous nous tenons davantage là, nous avons un moyen excellent que le Seigneur nous donne. Bien-aimés, est-ce que nous avons lavé nos robes dans le sang de l'agneau? Est-ce que nous avons lavé nos robes, nos vies dans le sang de l'agneau? Bien-aimés, prions le Seigneur. Seigneur, lave-moi dans le sang de l'agneau. Purifie-moi dans le sang de l'agneau. Nous sommes en prière. Oh Père, nous crions à toi, Seigneur. Oh, nous crions à toi, sang de l'agneau. Oh Père, Seigneur, ta parole dit que celui qui a la robe, oh, lavé dans le sang de l'agneau, c'est accès à ta présence. Peut jurer de ta grâce, peut jurer de ta bénédiction, peut jurer de ta vie. Oh Seigneur, et en ce matin, nous sommes prosternés dans ta face. Seigneur, lave-nous par ton sang. Seigneur, lave-nous par ton sang. Seigneur, purifie-nous par ton sang. Purifie-nous par ton sang, Jésus. Seigneur, purifie-nous par ton sang. Seigneur, nous croyons que c'est le sang de la rédemption. Nous croyons que c'est le sang qui nous rachète. Que c'est le sang qui paye le prix. Seigneur, pour notre condamnation, qui ôte les malédictions. Père, lave-nous en ce moment. Oh, dans le nom de Jésus. De Jésus. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Entraînons-nous comme nous allons chanter au ciel, gloire à l'agneau de Dieu.
Gloire,
qui nous rachète, qui nous délivre,
gloire,
qui nous affranchit.
Gloire, gloire. À l'agneau, chantons gloire, gloire,
gloire,
gloire,
gloire à l'agneau de Dieu,
gloire à l'agneau,
chantons gloire,
gloire,
chantons gloire,
gloire.
Chantons gloire,
gloire
à l'agneau, car il est glorieux
et digne de régner. L'agneau est souverain.
Nous élevons,
nous
qu'il est souverain.
L'agneau est souverain.
Oh, l'agneau est glorieux.
L'agneau est glorieux.
Car il est
glorieux et digne de régner.
L'agneau
souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer.
Parce qu'il est
l'agneau est souverain.
Est-ce que nous pouvons acclamer pour l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde?